Platon, Phèdre, le second discours de Socrate. Phèdre. Je croyais bien pourtant que tu n'en étais qu'à la moitié, et que tu allais traiter la contrepartie, démontrer qu'il faut donner la préférence à celui qui n'est pas épris, et faire voir les avantages qui sont en sa faveur. Pourquoi donc, Socrate, t'arrêtes-tu en route? Socrate. N'as-tu pas pris garde, mon bon ami, que j'ai déjà embouché la trompette épique, et délaissé le dithyrambe, et cela pour blâmer? Si je me mets à louer l'autre, où m'arrêterai-je, à ton avis? Ne sens-tu pas que les nymphes auxquelles tu m'as livré de propos délibérés vont me jeter dans un délire manifeste? Je me bornerai donc à dire en un mot que tout ce que nous avons réprouvé chez l'un se trouve chez l'autre en avantage. Qu'est-il besoin d'un long discours? J'en ai dit assez sur tous les deux. Mon discours, tel qu'il est, fera l'effet qu'il doit faire. Pour moi, je repasse la rivière et je m'en vais pour éviter de plus grandes violences de ta part. Pas encore, Socrate, pas avant que la chaleur soit passée. Ne vois-tu pas qu'il va être midi, l'heure de la grosse chaleur? Restons plutôt à causer de ce que nous venons de dire. Dès qu'il fera plus frais, nous partirons. Tu es extraordinaire, Phèdre, avec ta passion pour les discours, et vraiment je t'admire. Je suis persuadé que des discours qui ont été faits en ton temps, c'est à toi que la plus grande part en revient. Soit que tu les aies prononcés toi-même, soit que tu les aies faits, d'une manière ou d'une autre, prononcer à d'autres. J'en excepte Simmias de Thèbes, mais pour les autres, tu les dépasses de beaucoup, et à présent encore, je crois bien que tu es cause que j'ai un discours à faire. Ce n'est pas une déclaration de guerre que tu fais là, mais comment suis-je cause, et de quoi s'agit-il? Au moment où j'allais passer la rivière, mon bon ami, j'ai senti le signal divin qui m'est familier et qui m'arrête toujours au moment où je prends une résolution, et j'ai cru entendre ici même une voix qui me défendait de partir avant d'avoir fait une expiation, comme si j'avais commis quelque faute envers la divinité. C'est qu'en effet je suis devin, devin médiocre, il est vrai, je ressemble à ceux qui connaissent mal leurs lettres, j'en sais juste assez pour mon usage. Aussi, je devine bien ma faute à présent. L'âme aussi, mon ami, est certainement douée d'une puissance divinatoire. Quelque chose me troublait depuis un moment. Pendant que je parlais, selon l'expression d'Hibikos, j'avais peur, étant coupable envers les dieux d'en tirer gloire auprès des hommes. Je me rends compte à présent de ma faute. De quelle faute? Du fâcheux discours, Phèdre, du fâcheux discours que tu as apporté toi-même et de celui que tu m'as contraint à prononcer. En quoi fâcheux? Oh, ce sont des sots discours, et quelque peu impies. Peut-il y en avoir de plus fâcheux? Non, si tu dis vrai. Quoi donc? Ne crois-tu pas qu'Éros est fils d'Aphrodite et qu'il est Dieu? On le dit? Par Lysias, à coup sûr, ni toi, dans le discours que tu as prononcé par ma bouche, que tu avais ensorcelé. Mais si Éros est Dieu, ou quelque chose de divin, comme il l'est en effet, il ne saurait être mauvais. Or nos deux discours de tout à l'heure l'ont représenté comme mauvais. Par là, ils ont offensé Eros. En outre, ils sont tous deux d'une sottise vraiment plaisante. Bien qu'ils ne disent rien de sensé ni de vrai, ils prennent de grands airs comme s'ils valaient quelque chose, parce qu'ils trompent quelques nigauds et se font un renom parmi eux. Il faut donc, ami, que j'expie ma faute. Or, il y a pour les erreurs envers la mythologie une antique expiation qu'Homère n'avait point connue, mais que Stésichore a su pratiquer. Privée de la vue pour avoir diffamé Hélène, elle ne méconnut pas la cause de son malheur, comme Homère, mais, instruit par les muses, il la reconnut et fit aussitôt ses vers. Non, ce récit n'est pas vrai. Tu n'es pas monté sur les navires au Botillac, et tu n'es pas entré dans la citadelle de Troie. Quand il eut achevé cette palinodie, comme on l'appelle, il recouvra la vue sur le champ. Pour moi, je prétends me montrer plus sage que ces poètes, au moins en un point, car avant qu'Éros me punisse de l'avoir diffamé, je vais lui offrir ma palinodie, et je le ferai à visage découvert, et sans me voiler comme je l'ai fait tout à l'heure par respect humain. Tu ne pouvais rien imaginer, Socrate, qui me fût plus agréable. Tu te rends bien compte, mon bon Phèdre, de l'imprudence de ces deux discours, le mien et celui du cahier. Si en effet un homme généreux et bon, épris d'un jeune homme doué des mêmes qualités, ou ayant été jadis aimé lui-même, en entendait dire que les amants conçoivent des haines violentes pour des bagatelles, qu'ils sont jaloux, qu'ils nuisent à leur bien-aimé, Ne penses-tu pas qu'ils nous prendraient pour des gens élevés parmi les matelots, sans aucune idée de l'amour des honnêtes gens, et qu'ils seraient bien éloignés de donner les mains aux reproches que nous faisons à Eros? Par Zeus, c'est bien possible, Socrate. Aussi, pour n'avoir point à rougir devant cet homme, ni à craindre la vengeance d'Eros lui-même, je veux purifier mes oreilles, si je puis dire, de les saluer à mes premiers propos avec l'eau douce d'un nouveau discours. Mais je conseille aussi à Lysias de reprendre la plume au plus vite, pour montrer qu'à mérite égal, il faut préférer l'amant au poursuivant sans amour. Il le fera, sois-en sûr, car si tu prononces l'éloge de l'amour, il faudra bien que je force Lysias à écrire de son côté un nouveau discours sur le même sujet. On peut s'en fier à toi tant que tu seras l'homme que je connais. Tu peux donc parler en toute confiance. Mais où est l'enfant à qui je m'adressais? Il faut qu'il entende encore ce que j'ai à dire et qu'il n'aille pas, faute de l'avoir entendu, se donner précipitamment à l'homme sans amour. Cet enfant est toujours à tes côtés, tout près de toi, et il y restera tant que tu voudras. Figure-toi donc, bel enfant, que le discours précédent était de Phèdre, fils de Pythoclès, du dème de Mérinunte, et que celui que je vais prononcer est de Stésichore, fils d'Euphémos, d'Hymère. Voici comment il faut parler. Non, ce discours n'est pas vrai. Non, il ne faut pas, lorsqu'on a un amant, lui préférer un homme sans amour, par cela seul que l'un est en délire et que l'autre est dans son bon sens. Ce serait juste s'il était hors de doute que le délire fût un mal. Mais au contraire, le délire est pour nous la source des plus grands biens quand il est l'effet d'une faveur divine. C'est dans le délire, en effet, que la prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone ont rendu maintes éminents services à la Grèce, tant aux États qu'aux particuliers. De sang-froid, elles n'ont guère ou n'ont point été utiles. Ne parlons pas de la Sibylle et des autres devins inspirés par les dieux qui, par leurs prédictions, ont mis dans le droit chemin bien des gens. Ce serait allonger le discours sans rien apprendre à personne. Mais voici un témoignage qui mérite l'attention. C'est que, chez les anciens, ceux qui ont créé les mots n'ont pas cru que le délire fût ni honteux ni déshonorant, car ils n'auraient pas attaché ce nom même au plus beau des arts, à l'art qui interprète l'avenir, et ils ne l'auraient pas appelé maniché, délire. C'est parce qu'ils regardaient le délire comme un don magnifique, quand il vient du ciel, qu'ils lui ont donné ce nom. Mais les modernes, insérant maladroitement un T dans le mot, en ont fait mantiquet, divination. Quand au contraire, des hommes de sang-froid cherchent à connaître l'avenir par les oiseaux et les autres signes, comme cet art se fonde sur les raisonnements pour fournir à la pensée humaine oiesis, l'intelligence, nous, et la connaissance, historia, on l'a appelé oionistique, dont les modernes ont fait oionistique, art des augures, en y introduisant un emphatique oméga. Ainsi, autant la divination l'emporte en perfection et en dignité sur l'art augural, autant le nom l'emporte sur le nom et l'objet sur l'objet. Autant aussi, au témoignage des anciens, le délire l'emporte en noblesse sur la sagesse. Le don qui vient des dieux sur le talent qui vient de l'homme. Quand pour venger de vieilles offenses, les dieux frappèrent certaines familles de maladies ou de fléaux redoutables, le délire, s'emparant des mortels désignés et faisant entendre sa voix inspirée à ceux qui devaient l'entendre, trouva le moyen de détourner ces maux en recourant à des prières et à des cérémonies propitiatoires. C'est ainsi qu'en inventant les purifications et les expiations, le délire préserva celui qui en était favorisé des maux présents et des maux futurs, car il apprend à l'homme vraiment inspiré et posséder la manière de s'affranchir des maux qui surviennent. Il y a une troisième espèce de possession et de délire, celui qui vient des muses. Quand il s'empare d'une âme tendre et pure, il l'éveille, la transporte, lui inspire des odes et des poèmes de toutes sortes, et, célébrant d'innombrables hauts faits des anciens, fait l'éducation de leurs descendants. Mais quiconque approche des portes de la poésie sans que les muses lui aient soufflé le délire, persuadé que l'art suffit pour faire de lui un bon poète, cela reste loin de la perfection, et la poésie du bon sens est éclipsée par la poésie de l'inspiration. Tels sont, et je pourrais en citer d'autres, les heureux effets du délire inspiré par les dieux. Gardons-nous donc de les redouter, et ne nous laissons pas troubler ni intimider par ceux qui disent qu'il faut préférer à l'amant agité par la passion l'ami maître de lui. Il leur resterait encore à prouver, pour emporter l'honneur de la victoire, que ce n'est pas pour le bien des amants et des aimés que les dieux leur envoient l'amour. De notre côté, nous avons, au contraire, à démontrer que c'est pour notre plus grande félicité que cette espèce de délire nous a été donnée. Notre démonstration ne persuadera pas les habiles, mais convaincra les sages. Il faut d'abord apprendre à connaître exactement la nature de l'âme divine et humaine en considérant ses propriétés passives et actives. Nous partirons du principe que voici. Toute âme est immortelle, car ce qui est toujours en mouvement est immortel. Mais l'être qui en meut un autre et qui est mu par un autre, au moment où il cesse d'être mu, cesse de vivre. Seul l'être qui se meut lui-même, ne pouvant se faire défaut à lui-même, ne cesse jamais de se mouvoir. Et même, il est pour tous les autres êtres qui tirent le mouvement du dehors, la source et le principe du mouvement. Or, un principe ne peut prendre naissance, car il faut admettre nécessairement que tout ce qui naît, naît d'un principe, mais que le principe ne peut naître absolument de rien. Car, si le principe naissait de quelque chose, il ne serait plus principe. Mais, parce qu'il n'a point eu de naissance, il ne saurait non plus avoir de fin. Car, si le principe périssait, jamais lui-même ne pourrait renaître de rien, et rien ne pourrait naître de lui. S'il est vrai que tout doit naître d'un principe. Ainsi, l'être qui se meut lui-même est le principe du mouvement, et cet être ne saurait ni périr, ni naître, autrement le ciel tout entier et toute la génération des êtres tomberaient et s'arrêteraient et ne retrouveraient plus jamais de quoi se mouvoir et renaître. L'immortalité de l'être qui se meut lui-même étant démontrée, on n'hésitera pas à reconnaître que le mouvement même est l'essence et l'idée même de l'âme, car tout corps qui tire son mouvement du dehors est inanimé. Celui qui le tire du dedans, c'est-à-dire de lui-même, a une âme, puisque la nature de l'âme consiste en cela même. Mais, s'il est vrai que ce qui se meut soi-même n'est pas autre chose que l'âme, il s'ensuit nécessairement que l'âme n'a pas eu de commencement et qu'elle n'aura pas de fin. J'en ai dit assez sur son immortalité. Il faut parler maintenant de la nature de l'âme. Pour montrer ce qu'elle est, il faudrait une science toute divine et de long développement. Mais, pour en donner une idée approximative, on peut se contenter d'une science humaine et l'on peut être plus bref. J'adopterai donc ce dernier procédé, et je dirai qu'elle ressemble à une force composée d'un attelage et d'un cocher ailé. Chez les dieux, chevaux et cochers sont également bons et de bonne race. Chez les autres êtres, ils sont de valeur inégale. Chez nous, le cocher gouverne l'attelage. Mais l'un de ces chevaux est excellent et d'excellente race. L'autre est tout le contraire, et par lui-même et par son origine. Il s'ensuit, fatalement, que c'est une tâche pénible et malaisée de tenir les rênes de notre âme. Mais comment faut-il entendre les termes d'être mortel et d'être immortel? C'est ce qu'il faut tâcher d'expliquer. Tout ce qui est âme a la tutelle de tout ce qui est animé et fait le tour du ciel, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre. Quand elle est parfaite et ailée, elle parcourt l'empyrée et gouverne tout l'univers. Quand elle a perdu ses ailes, elle est emportée dans les airs jusqu'à ce qu'elle saisisse quelque chose de solide, où elle établit sa demeure, et quand elle a ainsi rencontré un corps terrestre qui, sous son impulsion, paraît se mouvoir de lui-même, cet assemblage d'une âme et d'un corps s'appelle un animal, et on le qualifie de mortel. Quant au nom d'immortel, il ne s'explique par aucun des raisonnements en forme, mais, dans l'impossibilité où nous sommes de voir et de connaître exactement la divinité, nous nous la représentons comme un être vivant immortel, doué d'une âme et d'un corps, éternellement unis l'un à l'autre. Recherchons pourquoi l'âme perd et laisse tomber ses ailes. Voici à peu près ce qu'on peut en dire. La nature a doué l'aile du pouvoir d'élever ce qui est pesant vers les hauteurs où habite la race des dieux. Et l'on peut dire que, de toutes les choses corporelles, c'est elle qui participe le plus à ce qui est divin. Or, ce qui est divin, C'est ce qui est beau, sage, bon et tout ce qui ressemble à ces qualités. Et c'est ce qui nourrit et fortifie le mieux les ailes de l'âme, tandis que les défauts contraires comme la laideur et la méchanceté les ruinent et les détruisent. Or, le guide suprême, Zeus, s'avance le premier dans le ciel, conduisant son char ailé, ordonnant et gouvernant toutes choses. Derrière lui marche l'armée des dieux et des démons répartie en 11 cohortes, car Hestia reste seule dans la maison des dieux, tandis que les autres, qui comptent parmi les 12 dieux conducteurs, marchent en tête de leur cohorte, à la place qui leur a été assignée. Que d'heureux spectacles! Que d'évolutions ravissantes animent l'intérieur du ciel, où les dieux bienheureux circulent pour accomplir leurs tâches respectives, accompagnés de tous ceux qui veulent et peuvent les suivre, car l'envie n'approche point du cœur des dieux. Lorsqu'ils vont prendre leur nourriture au banquet divin, ils montent par un chemin escarpé au plus haut point de la voûte du ciel. Alors les chars des dieux, toujours en équilibre et faciles à diriger, montent sans effort. Mais les autres gravissent avec peine, parce que le cheval vicieux est pesant et qu'il alourdit et fait pencher le char vers la terre s'il a été mal dressé par son cocher. C'est une tâche pénible et une lutte suprême que l'âme doit alors affronter, car les âmes immortelles, une fois parvenues au haut du ciel, passent de l'autre côté et vont se placer sur la voûte du ciel et, tandis qu'elles s'y tiennent, la révolution du ciel les emporte dans sa course. Et elle contemple les réalités qui sont en dehors du ciel. L'espace qui s'étend au-dessus du ciel n'a pas encore été chanté par aucun des poètes d'ici-bas, et ne sera jamais chanté dignement. Je vais dire ce qui en est, car il faut oser dire la vérité, surtout quand on parle sur la vérité. L'essence, véritablement existante, qui est sans couleur, sans forme, impalpable, uniquement perceptible au guide de l'âme, l'intelligence, et qui est objet de la véritable science, réside en cet endroit. Or, la pensée de Dieu, étant nourrie par l'intellect et la science absolue, comme d'ailleurs la pensée de toute âme qui doit recevoir l'aliment qui lui est propre, se réjouit de revoir enfin l'être en soi, et se nourrit avec délice de la contemplation de la vérité, jusqu'à ce que le mouvement circulaire la ramène en son point de départ. Pendant cette révolution, elle contemple la justice en soi, elle contemple la sagesse en soi, elle contemple la science. Non celle qui est sujette à l'évolution qui diffère suivant les objets que nous qualifions ici-bas de réels, mais la science qui a pour objet l'être absolu. Et quand elle a de même contemplé les autres essences et qu'elle s'en est nourrie, l'âme se replonge à l'intérieur de la voûte céleste et rentre dans sa demeure. Puis, lorsqu'elle est rentrée, le cocher, attachant ses chevaux à la crèche, leur jette l'ambroisie, puis leur fait boire le nectar. Telle est la vie des dieux. Parmi les autres âmes, celle qui suit la divinité de plus près et lui ressemble le plus, élève la tête de son cocher vers l'autre côté du ciel et se laisse ainsi emporter au mouvement circulaire. Mais, troublée par ses chevaux, elle a de la peine à contempler les essences. Telle autre tantôt s'élève, tantôt s'abaisse, mais, gênée par les mouvements désordonnés des chevaux, aperçoit certaines essences tandis que d'autres lui échappent. Les autres âmes sont tout avides de monter, mais, impuissantes à suivre, elles sont submergées dans le tourbillon qui les emporte. Elles se foulent, elles se précipitent les unes sur les autres, chacune essayant de pousser avant l'autre. De là un tumulte, des luttes et des efforts désespérés. Ou par la faute des cochers. De là un tumulte, des luttes et des efforts désespérés, ou par la faute des cochers, beaucoup d'âmes deviennent boiteuses, beaucoup perdent une grande partie de leurs ailes. Mais toutes, en dépit de leurs efforts, s'éloignent sans avoir pu jouir de la vue de l'absolu et n'ont plus dès lors d'autre aliment que l'opinion. La raison de ce grand empressement à découvrir la plaine de la vérité, c'est que la pâture qui convient à la partie la plus noble de l'âme vient de la prairie qui s'y trouve, et que les propriétés naturelles de l'aile s'alimentent à ce qui rend l'âme plus légère. C'est aussi cette loi d'adrasté que toute âme qui a pu suivre l'âme divine et contempler quelques-unes des vérités absolues est à l'abri du mal jusqu'à la révolution suivante, et que, si elle réussit à le faire toujours, elle est indemne pour toujours. Mais lorsque, impuissante à suivre les dieux, l'âme n'a pas vu les essences, et que par malheur, gorgée d'oubli et de vices, elle s'alourdit, puis perd ses ailes et tombe vers la terre, une loi lui défend d'animer à la première génération le corps d'un animal, et veut que l'âme, qui a vu le plus de vérité, produise un homme qui sera passionné pour la sagesse, la beauté, les muses et l'amour, que l'âme qui donne un second rang donne un roi juste ou guerrier et habile à commander, que celle du troisième rang donne un politique, un économe, un financier, que celle du quatrième produise un gymnaste infatigable ou un médecin, que celle du cinquième mène la vie du devin ou de l'initié, que celle du sixième s'assortisse à un poète ou à quelque autre artiste imitateur, celle du septième à un artisan ou à un laboureur, celle du huitième à un sophiste ou à un démagogue, celle du neuvième à un tyran. Dans tous ces états, ceux qui ont vécu en pratiquant la justice obtiennent en échange une destinée meilleure, ceux qui l'ont violée, une destinée plus mauvaise. En effet, aucune âme ne revient au lieu d'où elle est partie avant 10 000 années, car elle ne recouvre pas ses ailes avant ce laps de temps, à moins qu'elle n'ait été l'âme d'un homme qui ait cherché la vérité avec un cœur simple, ou qui ait aimé les jeunes gens d'un amour philosophique. Alors, à la troisième période de 1000 ans, si elle a embrassé 3 fois de suite ce genre de vie, elle reprend ses ailes et retourne vers les dieux après la 3000e année. Pour les autres, quand elles sont arrivées au terme de leur première vie, elles subissent un jugement. Ce jugement rendu, les unes descendent dans les prisons souterraines pour y payer leur peine, les autres, allégées par l'arrêt du juge, s'élèvent vers un certain endroit du ciel pour y mener l'existence qu'elles ont méritée, tandis qu'elles vivaient sous la forme humaine. Au bout de 1000 ans, les unes et les autres reviennent pour prendre part à un nouveau partage où chacune peut choisir la vie qui lui plaît. Alors, l'âme d'un homme entre dans le corps d'une bête et l'âme d'une bête rentre dans le corps d'un homme, pourvu qu'il ait déjà été un homme, car celle qui n'a jamais vu la vérité ne saurait revêtir la forme humaine. Pour être homme, en effet, il faut comprendre ce qu'on appelle le général, qui, partant de la multiplicité des sensations, les ramène par le raisonnement à l'unité. Or, cette faculté est une réminiscence des choses que notre âme a vues quand elle cheminait vers l'âme divine et que, dédaignant ce que nous prenons ici-bas pour des êtres, elle se redressait pour contempler l'être véritable. Voilà pourquoi il est juste que seule la pensée du philosophe ait des ailes, car elle ne cesse de poursuivre de toutes ses forces, par le souvenir, les choses dont la possession assure à Dieu même sa divinité. L'homme qui s'est tiré parti de ses réminiscences, initié sans cesse au mystère de l'absolue perfection, devient seul véritablement parfait. Détaché des passions humaines et occupé des choses divines, il encourt les reproches de la foule qui le tient pour insensé et ne s'aperçoit pas qu'il est inspiré. C'est ici qu'en voulait venir tout ce discours sur la 4e espèce de délire. Quand la vue de la beauté terrestre réveille le souvenir de la beauté véritable, que l'âme revêt des ailes et que, confiante en ses ailes nouvelles, elle brûle de prendre son essor, mais que, sentant son impuissance, elle lève, comme l'oiseau, ses regards vers le ciel et que, négligeant les choses d'ici-bas, elle se fait accuser de folie, l'enthousiasme qui s'élève ainsi est le plus enviable, en lui-même et dans ses causes, pour celui qui le ressent et pour celui auquel il le communique, et celui qui, possédé de ce délire, s'éprend d'amour pour les beaux jeunes gens, reçoit le nom d'amant. J'ai dit que toute âme d'homme a naturellement contemplé les essences. Autrement, elle ne serait pas entrée dans un homme. Mais il n'est pas également facile à toutes les âmes de se ressouvenir des choses du ciel à la vue des choses de la terre, car certaines âmes n'ont qu'entrevu les choses du ciel. D'autres, après leur chute sur la terre, ont eu le malheur de se laisser entraîner à l'injustice par les mauvaises compagnies et d'oublier les mystères sacrés qu'elles ont vus alors. Il ne reste qu'un petit nombre qui ont gardé un souvenir suffisant. Quand celles-ci aperçoivent quelque image des choses du ciel, elles sont saisies et ne sont plus maîtresses d'elles-mêmes. Mais elles ne reconnaissent pas ce qu'elles éprouvent, parce qu'elles n'en ont pas des perceptions assez claires. C'est quand ce qui regarde la justice, la tempérance et les autres biens de l'âme, leurs images d'ici-bas ne jettent point d'éclat, par suite de la faiblesse de nos organes, c'est à peine si quelques-uns, rencontrant des images de ces vertus, reconnaissent le genre du modèle qu'elles représentent. Mais la beauté, au contraire, était facile à voir à cause de son éclat, lorsque, mêlés au cœur des bienheureux, nous, à la suite de Zeus, d'autres à la suite d'autres dieux, nous jouissions de cette vue et de cette contemplation ravissante et qu'initiée, on peut le dire, au plus délicieux des mystères et les célébrant dans la plénitude de la perfection et à l'abri de tous les maux qui nous attendaient dans l'avenir, nous étions admis à contempler dans une pure lumière des apparitions parfaites, simples, immuables, bienheureuses, purs nous-mêmes et exempts de stigmates de ce fardeau que nous portons avec nous et que nous appelons le corps, et où nous sommes emprisonnés comme l'huître dans sa coquille. Il faut pardonner ces longueurs aux souvenirs et aux regrets de ces visions célestes. Je reviens à la beauté. Nous l'avons vue alors, je l'ai dit, resplendir parmi ces visions. Retombée sur la terre, nous la voyons par le plus pénétrant de tous les sens effacer tout de son éclat. La vue est, en effet, le plus subtil des organes du corps. Cependant, elle ne perçoit pas la sagesse, car la sagesse susciterait d'incroyables amours si elle présentait à nos yeux une image aussi claire que celle de la beauté, et il en serait de même de toutes les essences dignes de notre amour. La beauté seule jouit du privilège d'être la plus visible et la plus charmante. Mais l'homme, dont l'initiation est ancienne, ou qui s'est laissé corrompre, a peine à retomber d'ici-bas dans l'autre monde, vers la beauté absolue, quand il contemple sur terre une image qui en porte le nom. Aussi, loin de sentir du respect à sa vue, il cède à l'aiguillon du plaisir et, comme une bête, il cherche à la saisir et à lui jeter sa semence, et dans la frénésie de ses approches, il ne craint ni ne rougit de poursuivre une volupté contre nature. Mais celui qui a été récemment initié, qui a beaucoup vu dans le ciel, aperçoit-il en un visage une heureuse imitation de la beauté divine ou dans un corps quelques traits de la beauté idéale? Aussitôt il frissonne et sent remuer en lui quelque chose de ses émotions d'autrefois. Puis, les regards attachés sur le bel objet, il le vénère comme un dieu, et s'il ne craignait pas de passer pour frénétique, il lui offrirait des victimes comme à une idole ou à un dieu. À sa vue, comme s'il avait le frisson de la fièvre, il change de couleur, il se couvre de sueur, il se sent brûlé d'un feu inaccoutumé. À peine a-t-il reçu par les yeux les effluves de la beauté qu'il s'échauffe et que la substance de ses ailes en est arrosée. Cette chaleur fond l'enveloppe qui, resserrée longtemps par la sécheresse, les empêchait de germer. Sous l'afflux des effluves nourrissantes, la tige de l'aile se gonfle et se met à pousser de la racine sous toute la forme de l'âme, car jadis, l'âme était toute elle. En cet état, l'âme tout entière bouillonne et se soulève. Elle éprouve le même malaise que ceux qui font des dents. La croissance des dents provoque des démangeaisons et une irritation des gencives. C'est ce qui arrive à l'âme dont l'aile commence à pousser. La pousse des ailes provoque une effervescence, un agencement, des démangeaisons du même genre. Quand elle regarde la beauté du jeune garçon et que des parcelles s'en détachent et coulent en elle, de là vient le nom donné au désir, et qu'en la pénétrant elle l'arrose et l'échauffe tout ensemble, l'âme respire et se réjouit. Mais quand elle est séparée du bien-aimé et qu'elle se dessèche, les orifices des pores par où sentent les ailes se desséchant aussi se ferment et barrent la route au germe des ailes. Ce germe, enfermé avec le désir, saute comme le sang bas dans les artères, pique chacune des issues respectives où il se trouve, de sorte que l'aile, aiguillonnée de toutes parts, se débat dans la souffrance. Mais d'un autre côté, elle se réjouit au souvenir de la beauté. Cet étrange mélange de douleur et de joie la tourmente. Et dans sa perplexité, elle s'enrage, et sa frénésie l'empêche de dormir la nuit et de rester en place pendant le jour. Aussi, elle court avidement du côté où elle pense voir celui qui possède la beauté. Quand elle l'a vu, et qu'elle a fait entrer en elle le désir, elle sent s'ouvrir les issues fermées naguère et, reprenant haleine, elle ne sent plus l'aiguillon ni la douleur, au contraire. Elle goûte pour le moment la volupté la plus suave. Aussi l'amant ne voudrait-il jamais quitter son bel ami et le met-il au-dessus de tout. Mère, frère, camarade, il oublie tout, et si sa fortune négligée se perd, il n'en a cure. Les usages et les convenances qu'il se piquait d'observer auparavant le laissent indifférent. Il consent à être esclave et à dormir où l'on voudra, mais le plus près possible de l'objet de son désir, car, outre qu'il vénère celui qui possède la beauté, il ne trouve qu'en lui le médecin de ses tourments. Cette affection, bel enfant à qui s'adresse mon discours, les hommes l'appellent Eros. Et quant au nom que lui donnent les dieux, tu en riras sans doute parce que tu es jeune. Certains homérites, je crois, citent à propos d'Eros deux vers des poèmes détachés dont l'un est tout à fait irrespectueux et peu modeste. Ces vers disent « Les mortels le nomment Eros ailé et les dieux Pteros, parce qu'ils donnent des ailes. » On peut admettre ou rejeter l'autorité de ces vers, mais la cause et la nature de l'affection des amants sont exactement telles que je les ai dépeintes. Quand un suivant de Zeus est épris d'amour, il a plus de force pour supporter le choc du dieu ailé. Ceux qui ont été les sectateurs d'Arès et qui ont fait le tour du ciel à sa suite, quand ils sont captivés par Eros et qu'ils se croient outragés par le bien-aimé, deviennent meurtriers et n'hésitent pas à sacrifier eux-mêmes et l'objet de leur amour. C'est ainsi que chacun, honorant et imitant le dieu dont il a été coreute, règle, autant qu'il le peut, sa vie sur lui, tant qu'il n'est pas corrompu et qu'il n'a pas dépassé la première génération sur la terre. Et le même principe gouverne sa conduite dans ses relations avec ceux qu'il aime et avec les autres. Chacun choisit, selon son caractère, parmi les beaux garçons, l'objet de son amour. Il en fait son dieu, il lui dresse une statue dans son cœur et la charge d'ornement, pour la vénérer et célébrer ses mystères. Les sectateurs de Zeus recherchent un ami qui est une âme de Zeus. Ils examinent s'il a le goût de la sagesse et le don du commandement. Et quand ils l'ont trouvé, et s'en sont épris, ils font tout pour perfectionner en lui ses qualités. S'il n'était pas encore engagé dans les études qui s'y rapportent, s'il s'y adonne et s'y instruise près des maîtres qu'ils peuvent trouver ou par leurs propres recherches, ils scrutent en eux-mêmes pour découvrir la nature de leur dieu, et ils y réussissent parce qu'ils sont forcés de tenir leur regard tendu vers le dieu. Puis, quand ils l'ont ressaisi par le souvenir, pris d'enthousiasme, ils lui empruntent ses mœurs et ses goûts autant qu'il est possible à l'homme de participer à la divinité. Comme ils attribuent ce perfectionnement au bien-aimé, ils l'en aiment encore davantage. Et, quand ils ont puisé leur inspiration en Zeus, comme les bacchantes, ils la renversent dans l'âme du bien-aimé et la rendent autant qu'ils le peuvent semblable à leur dieu. Ceux qui suivaient Héra cherchent une âme royale, et quand ils l'ont trouvée, ils tiennent avec elle la même conduite. Les suivants d'Apollon et de chacun des autres dieux, se réglant de même sur leur dieu, cherchent dans leur jeune ami un naturel conforme à leur modèle, et, quand ils l'ont trouvé, alors, imitant le dieu et pressant le jeune homme de l'imiter, ils règlent ses inclinations et l'amènent à reproduire le caractère et l'idée du dieu autant qu'il peut le faire. Loin d'avoir pour le bien-aimé de la jalousie ou une basse malveillance, ils font tous les efforts possibles pour l'amener à une parfaite ressemblance avec eux et le dieu qu'ils honorent. Ainsi, le zèle des vrais amants et leur initiation, s'ils parviennent à réaliser leur désir de la manière que je dis, ont une belle et heureuse influence sur l'aimé quand il est pris par un amant en délire. Or, voici comment il se laisse prendre. Au début de cette allégorie, j'ai distingué dans l'âme trois parties, et assimilé les deux premières à des chevaux et la troisième à un cocher. Continuons à faire usage de la même figure. Des deux chevaux, disions-nous, l'un est bon, l'autre ne l'est pas. Mais nous n'avons pas dit en quoi consistait la bonté de l'un, la méchanceté de l'autre. C'est ce qu'il faut expliquer à présent. Le premier, placé à droite, est droit et bien découplé, d'encolure haute, les naseaux aquilins, la robe blanche et les yeux noirs. Il est amoureux de l'honneur, de la tempérance et de la pudeur, attaché à l'opinion vraie. La parole et la raison, sans les coups, suffisent à le conduire. L'autre, au contraire, est tordu, épais, mal bâti, le cou trapu, l'encolure courte, la face camarde, la robe noire, les yeux bleus et injectés de sang. Il est ami de la violence et de la fanfaronnade. Il est velu autour des oreilles. Il est sourd et n'obéit qu'avec peine au fouet et à l'aiguillon. Quand donc le cocher, apercevant l'objet d'amour, sent toute son âme prendre feu et qu'il est envahi par les chatouillements et les aiguillons du désir, le cheval docile aux rênes dominé comme toujours par la pudeur, se retient de bondir sur le bien-aimé. Mais l'autre, sans souci de l'aiguillon ni du fouet, saute et s'emporte avec violence. Il donne toutes les peines du monde à son compagnon d'attelage et à son cocher. Elle est contrainte d'aborder le jeune garçon et de l'entretenir des plaisirs d'Aphrodite. Tous deux résistent d'abord, indignés qu'on les pousse à des démarches si hardies et si criminelles, mais à la fin, comme ils ne cessent de les tourmenter, ils se laissent entraîner, cèdent et consentent à lui obéir. Ils s'approchent du jeune homme et contemplent cette apparition resplendissante. À sa vue, la mémoire du cocher se reporte vers l'essence de la beauté, et il la revoit debout, avec la tempérance, sur un piédestal sacré. Devant cette vision, saisi de crainte et de respect, il se renverse en arrière, ce qui lui fait tirer les rênes avec tant de violence que les deux chevaux tombent sur leur croupe. Mais l'un volontairement, parce qu'il ne résiste pas. Mais l'autre, le brutal, tout à fait malgré lui. Tandis qu'il recule, l'un, de honte et de stupeur, mouille de sueur l'âme tout entière, mais l'autre, remis de la douleur que le morse à sa chute lui ont causée, ayant à peine repris haleine, s'emporte et charge de reproches et d'outrages son guide et son compagnon, sous prétexte qu'ils ont, par lâcheté et couardise, abandonné leur poste et manqué à leur parole. En dépit qu'ils en aient, il veut les contraindre à revenir à la charge, et c'est à grand-peine qu'il accorde un délai à leur prière. Le terme échu, comme ils font semblant d'oublier, il leur rappelle leur engagement, les violente, hennit, les tiraille et les force à s'approcher du jeune garçon pour lui faire les mêmes propositions. Puis, quand ils sont en sa présence, avançant la tête, tendant la queue, mordant le frein, il les traîne avec effronterie. Mais le cocher, saisi d'une émotion plus forte encore que la première fois, comme s'il se rejetait en arrière à l'entrée de la carrière, tire encore plus fort sur la bouche du cheval emporté, ensanglante sa langue insolente et ses mâchoires, le renverse sur ses jambes de derrière et sa croupe, et le fait souffrir. Lorsque, après plusieurs expériences de cette nature, le cheval vicieux a perdu sa fougue et se sent dompté, il obéit désormais à son prévoyant cocher, et, quand il voit le bel enfant, il meurt de terreur. C'est alors seulement que l'âme de l'amant suit le jeune garçon avec respect et avec crainte. Le jeune homme qui se voit entouré de toutes sortes de soins et honoré comme un dieu par un amant, non pas simulé, mais véritablement épris, et qui se sent naturellement porté par l'amitié vers son adorateur, a pu auparavant entendre ses condisciples ou d'autres personnes dénigrer l'amour et soutenir qu'il est honteux d'avoir un commerce amoureux. Il a pu, sous ce prétexte, repousser son amant. Mais avec le temps, l'âge et la loi de la nature l'amènent à le recevoir dans son intimité, car il n'a jamais été dans les arrêts du destin qu'un méchant soit l'ami d'un méchant et qu'un homme de bien ne puisse être l'ami d'un homme de bien. Or, quand le jeune homme a consenti à l'accueillir dans sa compagnie et à prêter l'oreille à ses discours, l'affection de l'amant, circonvenant son cœur de plus près, le ravit. Il comprend que l'affection de tous les amis et parents ensemble n'est rien auprès de celle d'un amant inspiré. Quand il s'est prêté à ses relations, pendant quelque temps, qu'il s'est approché de lui et l'a touché dans le gymnase et les autres réunions, dès lors la source de ce courant que Zeus, amoureux de Ganymède, a nommé Désir, roulant à grands flots vers l'amant, pénètre en lui et, quand il en est rempli, le reste s'épanche au dehors et comme un souffle ou un son renvoyé par un corps lisse et solide revient au point d'où il est parti. Ainsi le courant de la beauté revient dans l'âme du bel enfant par les yeux, chemin naturel de l'âme, ouvre les passages des ailes, les arrose et en fait sortir les ailes et remplit en même temps d'amour l'âme du bien-aimé. Il aime donc, mais il ne sait quoi. Il ne se rend pas compte de ce qu'il éprouve et il est incapable d'expliquer, comme un homme qui a pris l'ophtalmie d'un autre. Il ne peut dire la cause de son mal et ne s'aperçoit pas qu'il se voit dans son amant comme dans un miroir. En sa présence, il oublie, comme lui, ses tourments. En son absence, il le regrette, comme il en est regretté. Son amour est l'image réfléchie de l'amour de son amant, mais il ne l'appelle pas amour, il n'y voit que de l'amitié. Comme lui, quoique plus faiblement, il désire le voir, le toucher, le baiser, coucher à ses côtés, et naturellement il ne tarde pas à le faire. Tandis qu'il est couché près de lui, Le cheval lascif de l'amant a bien des choses à dire au cocher, et pour prix de tant de peine, il réclame un peu de plaisir. Le cheval du jeune homme n'a rien à dire, mais, gonflé de désirs vagues, il embrasse l'amant et le baise, comme on caresse un tendre ami, et, quand ils sont couchés ensemble, il est prêt pour sa part à donner ses faveurs à l'amant, s'il en fait la prière. Mais d'un autre côté, son compagnon et le cocher s'y opposent au nom de la pudeur et de la raison. Si les éléments supérieurs de l'âme ont la victoire et réduisent les amants à mener une vie réglée et à cultiver la philosophie, ils passent leur existence terrestre dans le bonheur et l'union, maîtres d'eux-mêmes et réglés dans leur conduite. Ils tiennent en servage la partie où naît le vice et assurent la liberté à celle où naît la vertu. À la fin de leur vie, reprenant leurs ailes et leur légèreté, ils sortent vainqueurs d'une de ces trois luttes qu'on peut appeler vraiment olympiques. Et c'est un tel bien que ni la sagesse humaine, ni le délire divin ne sont capables d'en procurer à l'homme un plus grand. Mais s'ils ont embrassé un genre de vie moins noble, où la philosophie n'a point de part, s'ils attachent aux honneurs, s'il se peut que, dans l'ivresse ou dans tout autre moment d'oubli, les deux chevaux intempérants de l'un et de l'autre surprennent leurs âmes sans défense, les amènent au but et fassent un choix que le vulgaire trouve enviable, qu'elles assouvissent leurs désirs. Leur brutalité satisfaite, ils recommencent encore, mais rarement parce qu'une telle conduite n'est pas approuvée de l'âme tout entière. Ces amants aussi restent amis, mais moins étroitement que les premiers, et dans le temps de leur passion et après qu'elle s'est éteinte. Car ils pensent qu'ils se sont donnés et ont reçu mutuellement les gages les plus solides, qu'il serait impie de briser de tels nœuds et d'en venir à se haïr. À la fin de leur vie, sans elle encore, mais brûlant d'en avoir, leurs âmes sortent du corps et sont récompensées magnifiquement de leur délire amoureux. Car la loi défend que celles qui ont commencé leur voyage céleste descendent dans les ténèbres d'un voyage souterrain. Elles mènent une vie brillante et heureuse en voyageant ensemble, et quand elles reçoivent des ailes, elles les reçoivent ensemble en récompense de leur amour. Tels sont, mon enfant, les grands et divins avantages que te procurera l'affection d'un amant. Mais l'intimité d'un homme sans amour, gâtée par une sagesse mortelle, appliquée et aménagée des intérêts périssables et frivoles, n'enfantera dans l'âme de l'aimé que cette bassesse que la foule décore du nom de vertu, et la fera rouler, privée de raison, autour de la terre et sous la terre, pendant 9000 années. Voilà, cher Eros, la palidonie la plus belle et la meilleure que j'ai pu faire pour te l'offrir en expiation. Si les idées, et particulièrement les expressions, en ont une couleur poétique, c'est Phèdre qui m'a forcé à parler ainsi. Pardonne à mon premier discours, prends en gré celui-ci, sois-moi favorable et propice. Ne m'ôte pas, ne diminue pas dans ta colère cet art d'aimer dont tu m'as fait présent. Accorde-moi, au contraire, d'être prisé plus que jamais dans la société des beaux jeunes gens. Si tout à l'heure, Phèdre et moi, nous t'avons offensé dans nos discours, accuse-en Lysias, le père de ce débat. Oblige-le à renoncer à de telles compositions et tourne-le vers la philosophie comme son frère Polémarque s'y est tourné, afin que son amant qui m'écoute ne reste point partagé entre deux parties, mais qu'il consacre résolument sa vie à l'amour réglé par la philosophie.
Je joins ma prière à la tienne, Socrate, pour que tes souhaits, s'ils sont réellement avantageux, se réalisent. Quant à ton discours, je n'ai pas attendu la fin pour en admirer la beauté. Il est bien supérieur au premier. Aussi je crains que Lysias ne fasse piètre figure en admettant qu'il se prête à composer un pendant à ton discours. Aussi bien, tout dernièrement, merveilleux Socrate, un de nos hommes d'État, le prenant à partie, lui reprochait justement d'écrire, et d'un bout à l'autre de sa diatribe, le traitait de faiseur de discours. Il se pourrait donc que, par respect humain, il refusât d'écrire.
Voilà une idée qui n'est pas sérieuse, jeune homme, et tu connais bien mal ton ami si tu le crois si timoré. Mais peut-être penses-tu que son détracteur aussi parlait sérieusement.
Il avait bien l'air, Socrate. Et tu sais toi-même que les hommes les plus puissants et les plus considérables dans les États rougissent d'écrire des discours et de laisser des écrits dans la crainte de passer auprès de la postérité pour des sophistes.
Tu oublies, Phèdre, que le proverbe « coude charmant » vient du grand coude du Nil. Outre cela, tu ne vois pas non plus que les hommes d'État les plus infatués sont les plus ardents à rédiger des discours et à laisser des écrits après eux. Quand ils ont écrit un discours, ils sont si contents d'avoir des approbateurs qu'ils ne manquent jamais d'inscrire en première ligne le nom de ceux qui les approuvent.
Que dis-tu? Je ne comprends pas.
Tu ne comprends pas qu'en tête de tout écrit d'un homme d'État, on trouve toujours inscrit l'approbateur?
Comment?
Il a plu, dit-il, au Sénat, au peuple ou à tous les deux, sur la proposition d'un tel, et ici l'auteur se loue lui-même en termes magnifiques, et il continue en étalant à ses admirateurs sa propre sagesse dans un écrit qui prend parfois des proportions considérables. Ne te semble-t-il pas qu'un placard de ce genre n'est autre chose qu'un discours écrit?
Il me semble.
L'écrit passe-t-il? L'auteur sort tout joyeux du théâtre. Est-il rejeté? Et l'auteur se voit ôter l'honneur d'être un faiseur de discours et jugé indigne d'écrire. Il s'en désole et ses amis avec lui.
C'est vrai.
Preuve que, loin de mépriser ce métier, il le regarde avec envie.
Sans doute.
Mais quoi? Lorsqu'un orateur ou un roi est capable de revêtir la puissance d'un Lycurgue, d'un Solon, d'un Darius, et de s'immortaliser dans un état comme faiseur de discours, ne se regarde-t-il pas lui-même comme un dieu durant sa vie? Et la postérité ne porte-t-elle pas de lui le même jugement en considérant ses écrits?
Certainement.
Penses-tu donc qu'un de ces politiques, quel que soit son caractère et sa malveillance pour Lysias, lui fasse honte de son talent même d'écrivain?
Ce n'est pas vraisemblable, d'après ce que tu dis, car ce serait dénigrer, ce me semble, sa propre passion.
Il est donc évident pour tout le monde que le fait même d'écrire des discours n'emporte pas de honte.
En effet.
Mais ce qui est honteux, ce me semble, c'est de ne pas parler et écrire comme il faut, mais de parler et d'écrire mal et ridiculement.
C'est évident.
Qu'est-ce donc que bien ou mal écrire? Faut-il, Phèdre, que nous interrogions sur ce point Lysias et tout autre qui a écrit ou doit écrire sur un sujet public ou privé en vers, comme un poète, ou en style libre comme un prosateur?
S'il le faut, dis-tu? Et pourquoi vivrait-on, j'ose le dire, sinon pour de tels plaisirs? Ce n'est pas vivre que de vivre pour ceux qui sont nécessairement précédés d'une peine sans laquelle il n'y aurait même pas de plaisir, ce qui est le cas de presque tous les plaisirs physiques, qu'on a justement pour ce motif appelé servile.
Nous avons du temps, n'est-ce pas? Et puis les cigales qui, sous l'effet de la chaleur étouffante, chantent et s'entretiennent ensemble au-dessus de nos têtes, semblent nous regarder. Si donc elles nous voyaient tous deux, comme le commun des hommes, cesser nos entretiens au milieu du jour, baisser la tête et bercer à leurs chansons nos esprits paresseux, elles se moqueraient de nous, et avec juste raison. Elles penseraient voir des esclaves qui seraient venus près d'elles en cet asile pour faire la sieste, comme des moutons assoupis à l'heure de midi autour de la fontaine. Mais si elles nous voient converser et passer à côté d'elles sans nous laisser charmer par leurs chants de sirènes, elles nous admireront. Et peut-être nous feront-elles part de cette récompense que, par une permission des dieux, elles peuvent accorder aux hommes.
De quelle récompense veux-tu parler? Je crois bien que je n'en ai jamais entendu parler.
Il ne sied pas à un ami des muses d'ignorer ces choses-là. On dit que jadis, avant la naissance des muses, les cigales étaient des hommes. Quand les muses naquirent et firent connaître le chant aux hommes, certains d'entre eux furent alors tellement transportés de plaisir qu'ils oublièrent en chantant de boire et de manger et moururent sans s'en apercevoir. C'est d'eux que vient la race des cigales qui ont reçu des muses le privilège de n'avoir pas besoin de nourriture et de chanter, de leur naissance à leur mort, sans boire ni manger, puis d'aller rapporter aux muses par qui chacune d'elles est honorée ici-bas. Ainsi, elles font connaître à Terpsichore ceux qui l'ont honoré dans les cœurs, et elles augmentent sa tendresse pour eux. À Erato, ceux qui l'ont honoré dans leurs poèmes d'amour. De même aux autres, ceux qui leur ont rendu le genre d'hommage qui leur convient. À Calliope, la plus ancienne, et à Uranie, la cadette, elles rapportent les noms de ceux qui passent leur vie à philosopher et qui honorent les arts auxquels elles président. Ces deux muses, qui sont spécialement occupées du ciel et des discours des dieux et des hommes, sont celles dont les accents sont les plus beaux. Voilà bien des raisons de parler au lieu de faire la sieste de midi.
Eh bien, parlons.
Nous nous proposions tout à l'heure d'examiner ce qui fait qu'on parle ou qu'on écrit bien ou mal. N'est-ce pas le moment de faire cet examen?
Évidemment, si.
N'est-il pas nécessaire, pour qu'un discours soit parfait, qu'il ait pour fondement la connaissance de la vérité touchant la question qu'on veut traiter?
J'ai entendu dire, mon cher Socrate, qu'il n'était pas nécessaire au futur orateur de connaître ce qui est réellement juste, mais ce qui semble juste à la multitude chargée de prononcer, ni ce qui est réellement bon ou beau, mais ce qui paraît tel. Car c'est de la vraisemblance, non de la vérité, que sort la persuasion.
Il ne faut pas dédaigner, Phèdre, une parole tombée de la bouche des sages. Il faut voir si elle est juste, et ce que tu viens de dire mérite qu'on s'y arrête.
Tu as raison.
Nous nous y prendrons de la manière que voici.
Voyons.
Si je te conseillais de te procurer un cheval pour aller à la guerre, et que nous ignorions tous les deux ce qu'est un cheval, si je savais seulement que Phèdre prend pour un cheval celui des animaux domestiques qui a les plus grandes oreilles.
Il y aurait de quoi rire, Socrate.
Non, pas encore. Si je voulais sérieusement te persuader, et si pour cela je composais un discours à la louange de l'âne, que j'appellerais cheval, disant que c'est une bête inestimable, à la maison et à l'armée, propre à te porter en combat, capable de transporter les bagages et apte à bien d'autres usages.
Ce serait le comble du ridicule.
Ne vaut-il pas mieux être ridicule que dangereux et funeste à ses amis?
Sans doute.
Lors donc qu'un orateur, ignorant le bien et le mal, trouve ses concitoyens dans la même ignorance et entreprend de les persuader, non pas en louant l'ombre d'un âne sous le nom de cheval, mais en louant le mal sous le nom de bien, et lorsque, ayant étudié les préjugés de la multitude, il arrive à lui persuader de faire le mal au lieu du bien. À ton avis, quel fruit la rhétorique récoltera-t-elle de ce qu'elle a semé?
Des fruits assez mauvais.
N'aurions-nous pas, mon bon ami, maltraité la rhétorique un peu brutalement? Peut-être pourra-t-elle nous dire « Qu'est-ce donc que vous débitez là? Vous êtes d'étranges raisonneurs. Je ne force personne à apprendre l'art de la parole sans connaître le vrai, mais si mon avis a quelque valeur, qu'on s'assure d'abord la possession de la vérité, on viendra ensuite à moi, car j'affirme bien haut que sans moi, on aura beau posséder la vérité, on ne sera pas plus capable de persuader par les règles de l'art. »
N'aurait-elle pas raison de parler ainsi?
Sans doute, si les voix qui s'élèvent vers elle rendent témoignage qu'elle est un art. Mais je crois en entendre qui s'approche et proteste qu'elle ment, qu'elle n'est pas un art, mais une simple routine. De véritable art de la parole, en dehors de la vérité, il n'y en a pas, dit le Laconien, et il n'y en aura jamais.
Il faut donner audience à ces voix, Socrate. Fais-les comparaître ici, et approfondis leurs paroles et leurs raisons.
Approchez, noble créature, et persuadez Phèdre, père des beaux enfants, que, s'il n'a pas suffisamment étudié la philosophie, il ne sera jamais capable de parler sur quoi que ce soit. Que Phèdre réponde.
Interroger.
La rhétorique en général n'est-elle pas l'art de conduire les âmes par la parole, non seulement dans les tribunaux et dans les autres assemblées publiques, mais encore dans les réunions privées, art qui ne varie pas selon la petitesse ou la grandeur des sujets et dont le juste emploi ne fait pas moins d'honneur dans les choses légères que dans les choses importantes. N'est-ce pas en ce sens que tu as entendu parler?
Non, par Zeus, ce n'est pas tout à fait cela, mais c'est surtout dans les tribunaux que règne l'art de parler et d'écrire. On pratique aussi l'art de parler dans les assemblées du peuple. Je n'ai pas entendu dire qu'il s'étendit plus loin.
Tu connais donc que les traités de rhétorique de Nestor et d'Ulysse, qu'ils composèrent dans leurs loisirs sous les murs d'Ilion, et tu n'as jamais entendu parler de ceux de Palamède?
Non, par Zeus, non plus que des traités de Nestor, à moins que tu n'ériges Gorgias en Nestor et Ulysse en Thrasymaque ou en Théodore.
Peut-être. Mais laisse-les de côté, et dis-moi, toi, dans les tribunaux que font les parties adverses. Elles parlent contradictoirement, n'est-ce pas? Ou bien que dirons-nous qu'elles font?
C'est cela même.
sur le juste et l'injuste.
Oui.
N'est-il pas vrai que celui qui fait cela avec art fera paraître la même chose aux mêmes personnes, tantôt juste, tantôt injuste, à son gré?
Sans doute.
Et s'il parle au peuple, il lui fera paraître les mêmes choses, tantôt bonnes, tantôt mauvaises.
C'est vrai.
Ne savons-nous pas que le Palamède d'Élée parlait avec tant d'art qu'il faisait paraître à ses auditeurs les mêmes choses semblables ou dissemblables, une ou multiples, en repos ou en mouvement?
Si.
Ce n'est donc pas seulement dans les tribunaux et à l'assemblée du peuple que s'applique l'art de la controverse, mais il y a, semble-t-il, un art unique qui s'applique à tout ce qu'on dit. Et cet art, s'il existe réellement, rend capable d'assimiler tout à tout dans tous les cas et aux yeux de toutes les personnes possibles, et, lorsqu'un autre en fait autant, de faire éclater aux yeux sa supercherie.
Que veux-tu dire par là?
Suis mon raisonnement. Je crois qu'il éclaircira la question. Est-il plus facile de faire illusion dans les choses très différentes ou dans les choses peu différentes?
Dans les choses peu différentes.
Si tu veux changer de côté sans qu'on s'en aperçoive, n'y arriveras-tu pas mieux en te déplaçant à petits pas qu'à grands pas,
sans contredit?
Il est donc nécessaire, pour tromper les autres sans se laisser tromper soi-même, de distinguer exactement la ressemblance et la différence des choses.
C'est indispensable.
Mais pourra-t-on, si l'on ignore la vraie nature de chaque chose, discerner si la nature qu'on ignore ressemble peu ou beaucoup aux autres?
On ne le pourra pas.
Donc, lorsqu'on a une opinion contraire à la vérité et qu'on s'est trompé, l'erreur provient évidemment de certaines ressemblances.
C'est cela même?
Est-il possible qu'on ait l'art de faire passer insensiblement les autres de ressemblance en ressemblance et de les amener dans tous les cas de la vérité à son contraire et d'éviter soi-même une telle erreur si l'on ignore l'essence de chaque chose?
Jamais.
Ainsi, mon camarade, l'art des discours, quand on ignore la vérité et qu'on ne s'attache qu'à l'opinion, n'est, ce me semble, qu'un art ridicule et sans valeur.
C'est à croire.
Eh bien, dans le discours de Lysias que tu tiens à la main et dans ceux que j'ai prononcés, veux-tu que nous cherchions quelque exemple de choses qui, selon moi, sont étrangères ou conformes à l'art?
Très volontiers, car à présent la discussion est en quelque sorte nue, faute d'exemple approprié.
C'est vraiment un heureux hasard, semble-t-il, qui nous a fait prononcer ces deux discours propres à montrer par des exemples comment l'homme qui connaît le vrai fait, en se jouant de la parole, prend le change à ceux qui l'écoutent. Pour moi, Phèdre, je rapporte cette chance aux dieux de cet endroit. Peut-être aussi ces interprètes des muses qui chantent sur nos têtes nous ont soufflé cette heureuse inspiration, car, pour ma part, je suis étranger à tout art oratoire.
Je veux bien le croire, puisque tu le dis, mais explique ce que tu veux dire.
Eh bien, lis-moi le commencement du discours de Lysias.
Tu connais mes sentiments, j'estime, je te l'ai dit, qu'il est de notre intérêt à tous deux que tu écoutes mes propositions, et je soutiens qu'il n'est pas juste de me refuser ce que je demande par la raison que je ne suis pas ton amant, car les amants regrettent, nanana, etc.
Arrête! Il faut expliquer en quoi Lysias est fautif et manque d'art. N'est-il pas vrai?
Si.
N'est-il pas évident pour tout le monde que sur les matières comme celles que nous débattons, nous sommes tantôt d'accord, tantôt en désaccord?
Je crois te comprendre. Cependant, explique-moi plus clairement.
Quand on prononce le mot de fer ou d'argent, n'en avons-nous pas tous la même idée?
Assurément.
Si l'on prononce le mot de juste ou de bon, les avis ne se partagent-ils pas, et ne sommes-nous pas en désaccord les uns avec les autres et avec nous-mêmes?
C'est vrai.
Il y a donc des choses où nous sommes d'accord, d'autres où nous ne le sommes pas.
Oui.
Maintenant, de quel côté est-on le plus facile à tromper, et dans quel sujet la rhétorique a-t-elle le plus de pouvoir?
Et évidemment dans ceux où l'opinion est flottante.
Il faut donc, pour aborder l'art oratoire, distinguer d'abord méthodiquement ces sujets et saisir le caractère des deux espèces. Celle où l'opinion de la foule est forcément flottante, ou celle où elle ne l'est pas.
Il est certain, Socrate, que saisir ce caractère serait une observation précieuse.
Il faut ensuite, selon moi, en abordant un sujet, ne pas s'y jeter à l'aveugle, mais distinguer nettement à laquelle des deux espèces il appartient.
Sans doute.
Et l'amour? Le rangerons-nous parmi les matières à dispute ou non?
sans nul doute, parmi les matières à dispute. Autrement, penses-tu que tu aurais pu en dire ce que tu en as dit tout à l'heure? Qu'il était un mal pour l'aimé et pour l'amant, puis, au rebours, qu'il était le plus grand des biens.
À merveille. Mais réponds encore à cette question, car l'enthousiasme où j'étais a troublé la netteté de mes souvenirs.
Est-ce que j'ai défini l'amour en commençant mon discours?
Oui, par Dieu, c'est merveilleusement. Oh oh, c'est dire que les nymphes de l'Archéleus et Pan, fils d'Hermès, sont bien supérieurs à Lysias, fils de Céphale, dans l'art des discours. Ou bien me trompais-je? Et Lysias, en commençant à parler de l'amour, nous a-t-il fait accepter la définition qu'il voulait, et y a-t-il rapporté tout de suite la conclusion du discours qu'il a composé? Veux-tu que nous en relisions le début?
Si tu veux, mais tu n'y trouveras pas ce que tu cherches.
Lis. Je désire entendre l'auteur lui-même.
Tu connais mes sentiments, j'estime, je te l'ai dit, qu'il est de notre intérêt à tous les deux, que tu écoutes mes propositions, et je soutiens qu'il n'est pas juste de me juste refuser ce que je demande par la raison que je ne suis pas ton amant, car les amants regrettent le bien qu'ils ont fait quand leur désir est éteint, etc.
L'auteur est loin, ce me semble, de faire ce que nous demandons, puisqu'il part non du commencement, mais de la fin, comme s'il remontait le courant du discours en nageant sur le dos, et qu'il débute par où finirait un amant parlant de son bien-aimé. Me trompais-je, Phèdre, mignonne tête?
C'est en effet la fin, Socrate, ce qu'il dit ici.
Et le reste? Ne trouves-tu pas que toutes les idées du discours ont été jetées pêle-mêle? Te paraît-il que le second point doivent être placés à la seconde place plutôt que très l'autre point? Il m'a semblé à moi, dans mon ignorance, que l'auteur avait bravement couché sur le papier au fur et à mesure tout ce qui se présentait à son esprit. Distingues-tu, toi, quelque nécessité de composition qui lui ait fait aligner ses idées dans cet ordre?
Tu es bien bon de me supposer capable de pénétrer si exactement les secrets d'un tel écrivain.
Eh bien, tu avoueras du moins, je pense, qu'un discours doit être constitué comme un être vivant, avec un corps qui lui soit propre, une tête et des pieds, un milieu et des extrémités, toutes parties bien proportionnées entre elles et avec l'ensemble.
Sans doute.
Examine donc le discours de ton ami et vois s'il est composé de cette manière ou s'il ne l'est pas. Tu trouveras qu'il ressemble exactement à l'épitaphe qui fut, dit-on, gravée sur la tombe de Midas, roi de Phrygie.
Quelle est cette épitaphe? Et qu'a-t-elle de particulier?
La voici. Je suis une vierge des reins, je suis couchée sur le tombeau de Midas. Tant que l'eau coulera et que les grands arbres verdiront, fixé ainsi sur ce tombeau arrosé de larmes, j'annoncerai aux passants que Midas a été enseveli dans ce lieu. On peut indifféremment placer n'importe quel vers à la première ou à la dernière place. Tu le vois bien, n'est-ce pas?
Tu te moques de notre discours, Socrate.
Laisse-le donc, pour ne pas te fâcher, bien qu'il contienne à mon avis beaucoup d'exemples qu'il y aurait profit à étudier pour éviter avec soin de les imiter, et passons aux autres discours. S'il s'y trouvait, je crois, une chose qu'il convient de considérer, si l'on veut se rendre compte de l'art de discourir.
Que veux-tu dire par là?
Ces discours étant contradictoires, car l'un soutenait qu'il faut accorder ses faveurs à l'amant, et l'autre au prétendant sans amour.
Et il le soutenait avec force.
Je croyais que tu allais le dire le mot juste, d'une manière délirante. C'est justement ce que je cherchais. Car nous avons dit que l'amour est une sorte de délire, n'est-ce pas?
Oui.
Et qu'il y a deux genres de délire, l'un causé par des maladies humaines, l'autre par une impulsion divine qui nous jette hors de nos habitudes régulières.
C'est vrai.
Et dans le délire divin, nous avons distingué quatre espèces relevant de quatre dieux. Nous avons rapporté l'inspiration des prophètes à Apollon, celle des initiés à Dionysos, celle des poètes aux muses, enfin celle des amants à Aphrodite et à Eros. C'est la dernière que nous avons déclarée la meilleure, et je ne sais comment, tandis que nous tracions l'image de la passion amoureuse, touchant peut-être à la vérité, peut-être aussi nous fourvoyant loin d'elle, et composant de cette manière un discours assez persuasif, nous avons fait, en nous jouant avec décence et pitié, une sorte d'hymne mythique en l'honneur de ton maître et du mien, Phèdre, en l'honneur d'Eros qui veille sur les beaux jeunes gens.
Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'entendre.
Tirons-en donc un enseignement, et voyons par quel chemin le discours a passé du blâme à l'éloge.
Comment cela?
À mon avis, tout le reste n'est en vérité que jeu. Mais dans ces développements où le hasard nous a guidés, il y a deux procédés dont il serait intéressant d'étudier méthodiquement la vertu.
Lesquels?
C'est d'abord d'embrasser d'une seule vue et de ramener à une seule idée les notions séparées de côté et d'autre afin d'éclaircir par la définition le sujet qu'on veut traiter. C'est ainsi que tout à l'heure nous avons défini l'amour. Notre définition a pu être bonne ou mauvaise. En tout cas, elle nous a permis de rendre notre discours clair et cohérent.
Mais le second procédé, Socrate, quel est-il?
Il consiste à diviser à nouveau l'idée en ses éléments suivant ses articulations naturelles, en tâchant de n'y rien tronquer, comme ferait un boucher maladroit. C'est ce que nous avons fait dans les discours de tout à l'heure. Nous avons ramené le délire à une idée générale commune, puis, comme dans un seul corps, il y a des couples de membres qui ont le même nom, ceux de gauche et ceux de droite. Ainsi, nos deux discours ont considéré d'abord le délire comme un genre unique, puis l'un, s'attaquant au côté gauche, l'a divisé et subdivisé sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il ait rencontré une sorte d'amour de gauche auquel il a dit justement son fait. L'autre, nous conduisant sur la droite du délire, a trouvé un amour du même nom que le premier, mais d'origine divine, qu'il a mis en lumière et loué comme l'auteur des plus grands biens pour l'humanité.
C'est très exact.
Voilà, Phèdre, de quoi je suis amoureux, moi. C'est des divisions et des synthèses. Je vois le moyen d'apprendre à parler et à penser. Et si je trouve quelque autre capable de voir les choses dans leur unité et leur multiplicité, voilà l'homme que je suis à la trace comme un dieu. Ceux qui en sont capables, Dieu sait si j'ai eu tort ou raison de leur appliquer ce nom, mais enfin, jusqu'ici je les appelle dialecticiens. Mais pour ceux qui ont étudié près de toi ou de Lysias, dis-moi quel nom dois-je leur donner? Serait-ce là cet art de la parole grâce auquel Thrasymaque et les autres sont devenus habiles à parler et communiquent cette habileté à ceux qui veulent bien leur apporter des présents comme à des rois?
Ces hommes sont vraiment rois, mais ils ignorent l'art dont tu parles. Au reste, tu as raison, je crois, de l'appeler dialectique, mais il me semble que nous n'avons pas encore abordé la rhétorique.
Comment dis-tu? Y aurait-il en dehors de la dialectique quelque beau procédé que l'art peut s'approprier? Gardons-nous bien, toi et moi, de le dédaigner, et disons en quoi consiste cette autre partie de la rhétorique.
Il y a beaucoup à dire, Socrate, s'il faut rapporter ce qui est dans les livres de rhétorique.
Tu fais bien de m'y faire penser. D'abord, il faut, je crois, qu'un exorde soit placé au commencement des discours. Ce sont là ces sortes de choses, n'est-ce pas, que tu appelles les finesses de l'art?
Oui.
La seconde place est pour la narration, suivie des dépositions des témoins, la troisième pour les preuves, la quatrième pour les présomptions. On parle aussi de confirmation, de surconfirmation, je crois. C'est l'habile artisan de discours qui nous vient de Byzance.
Tu veux parler de l'habile Théodore?
Sans doute. Il enseigne aussi ce que doit être la réfutation et la post-réfutation dans l'attaque et dans la défense. Donnons audience aussi à l'éminent Evenos de Paros, l'inventeur de l'insinuation et des louanges détournées. On dit qu'il a mis en vers la doctrine des blâmes indirects pour aider la mémoire. C'est un habile homme. Laisserons-nous dormir Tisias et Gorgias, eux qui ont découvert que le vraisemblable est bien supérieur au vrai, qui, par la force de leurs paroles, font paraître grand ce qui est petit et petit ce qui est grand, qui donnent aux choses nouvelles un air d'antiquité et aux choses antiques un air de nouveauté, et qui ont inventé les discours condensés ou amplifiés à l'infini sur n'importe quel sujet. Un jour que j'en parlais à Prodicos, il se mit à rire et déclara que lui seul avait trouvé la méthode exigée par l'art des discours et que ce n'était ni la prolixité ni la concision, mais la juste mesure.
C'était sagement parlé, Prodicos.
Ne dirons-nous rien d'Hippias? Je pense que l'étranger d'Hélice serait l'avis de Prodicos.
Assurément.
Que dirons-nous des doctrines officines d'expression de Pollos, du savant emploi qu'il fait des expressions redoublées, des sentences, des figures, des mots à la Lycomnios, présent que ce maître lui fit pour fabriquer de l'élégance?
Les procédés de Protagoras, Socrate, n'étaient-ils pas du même genre?
C'était avec une certaine propriété des termes, mon enfant, avec beaucoup d'autres belles choses. Pour apitoyer par des lamentations sur la vieillesse et la pauvreté, l'art du puissant rhéteur de Chalcédoine me paraît sans rival. Il est également capable de soulever les foules et d'apaiser leur colère par ses chants magiques, comme il disait, et il excelle à inventer et à détruire les calomnies, quel qu'en soit le motif. Quant à la fin du discours, il semble y avoir un accord unanime qu'on appelle récapitulation ou qu'on lui donne un autre nom.
Tu veux parler du résumé final où l'on rappelle aux auditeurs ce qui a été dit?
C'est cela. Vois-tu d'autres choses à dire sur l'art du discours?
Je ne vois que des choses insignifiantes et qui ne valent pas la peine qu'on en parle.
Si elles sont insignifiantes, laissons-les de côté et faisons voir sous un plus grand jour quelle est la puissance de l'art et où elle se manifeste.
Cette puissance est immense, Socrate, du moins dans les assemblées populaires.
Elle l'est en effet, mais examine-toi aussi, cher ami, si tu ne trouveras pas, comme moi, que la trame de leur art est bien lâche.
Explique-toi seulement.
Dis-moi donc, si quelqu'un venait trouver ton ami Eryximaque ou son père Acoumène, et leur disait « Je sais, par l'emploi de certaines drogues, échauffer ou refroidir à mon gré le corps, faire, si bon me semble, vomir ou évacuer par le bas et produire quantité d'autres effets du même genre, et je prétends de ce chef être médecin et faire un médecin de tout homme à qui je transmettrai ses connaissances. » Que penses-tu qu'il répondrait à ces prétentions ?
Il lui demanderait, à coup sûr, s'il sait encore à qui et quand il faut appliquer chaque traitement et à quelle dose.
Et s'il répliquait, « Je n'en sais absolument rien, mais je prétends qu'un homme qui aura reçu mes leçons sera lui-même capable de faire ce que vous demandez. »
Il répondrait, je pense, « Cet homme est fou, pour avoir appris dans quelques livres ou mis la main par hasard sur quelques remèdes, il s'imagine être médecin. » Bien qu'il n'entende rien à cet art.
Et si quelqu'un venait trouver Sophocle et Euripide et leur disait qu'il s'est composé des tirades sans fin sur de petits sujets et traité succinctement les grands sujets, manié à son gré la pitié ou, au contraire, la terreur et la menace, et tous les sentiments du même genre, et qu'en enseignant cela, il prétend enseigner la manière de faire une tragédie.
Mais ta vie, Socrate, qu'il lui rirait au nez s'il s'imaginait que la tragédie n'est pas avant tout une composition harmonieuse où tous les éléments s'accordent entre eux avec l'ensemble.
Mais il se garderait sans doute de le rudoyer grossièrement. Il le traiterait comme le ferait un musicien qui aurait rencontré un homme qui se figure savoir l'harmonie parce qu'il sait la manière de hausser ou de baisser le ton d'une corde et ne lui dirait pas brutalement « Pauvre homme, tu es hypocondre ». Mais lui dirait, avec la douceur propre au musicien, « Mon très cher, il faut savoir ce que tu sais, si l'on veut être harmoniste. Mais on peut fort bien, au point où tu es, ignorer totalement l'harmonie. Tu possèdes les notions indispensables pour aborder l'harmonie, mais l'harmonie non pas. »
Rien de plus juste.
De même, Sophocle répondrait à son vantard qu'il connaît les notions élémentaires de l'art tragique, mais non l'art tragique, et Acoumène répondrait au sien qu'il connaît les notions préliminaires de la médecine, mais non la médecine.
Assurément.
Et si Adraste, à la voix de miel, ou Périclès, avait entendu ce que nous venons de dire de ces beaux artifices, du style concis et figuré, et des autres procédés que nous devions, disions-nous, examiner au grand jour, est-il à croire que, comme toi et moi, il répondrait par un mot brutal et malhonnête à ceux qui ont écrit de ces artifices et qui les enseignent comme étant l'art oratoire, ou plus sages que nous. N'est-ce pas nous-mêmes qui le reprendrait ? Ô Phèdre, ô Socrate, dirait-il, au lieu de vous fâcher, pardonnez plutôt à ceux qui ne connaissent pas la dialectique, ont été impuissants à définir l'art oratoire. Dans leur ignorance, ils ont cru, parce qu'ils étaient en possession des préliminaires indispensables de l'art, avoir trouvé l'art de la parole et, en enseignant ces préceptes à leurs disciples, ils pensent avoir parfaitement enseigné la rhétorique. Mais quant à l'art de disposer chacun de ses moyens en vue de la persuasion et d'ordonner le tout, ils l'ont tenu pour négligeable et ont cru que leurs disciples devaient le trouver tout seuls en composant leur discours.
J'ai peur, Socrate, que l'art que ces maîtres donnent pour l'art oratoire dans leurs leçons et dans leurs écrits ne se borne à ce que tu dis, et je crois bien que tu as touché juste. Mais le véritable art de parler et de persuader, comment et où peut-on l'acquérir?
la perfection dans les luttes oratoires, Phèdre, est vraisemblablement peut-être, même nécessairement, soumise aux mêmes conditions que les autres arts. Si la nature t'a doué du don de la parole, tu deviendras un orateur illustre, en y ajoutant la science et l'exercice. Mais s'il te manque une de ces choses, tu seras par là même imparfait. Pour ce qui est de l'art, ce n'est pas sur les traces de Lysias et de Thrasymaque qu'il faut marcher pour le chercher.
Quel chemin faut-il donc prendre?
Il y a, mon bon ami, des raisons de croire que de tous les orateurs, Périclès a été le plus consommé dans son art.
Comment?
C'est que tous les arts ne peuvent se passer de ce bavardage et de ces spéculations de haut vol sur la nature. Car c'est de là que semble bien venir la hauteur de l'esprit et la facilité à mener à bien toutes ces entreprises. Ce sont ces qualités que Périclès ajouta à ses dons naturels, ayant trouvé dans Anaxagore l'homme de ses hautes spéculations. Il en nourrit son esprit, pénétra la nature de ce qui est intelligent et de ce qui ne l'est pas, sujet qu'Anaxagore a si souvent traité, et il tira de là pour l'art oratoire ce qui s'y rapportait.
Que veux-tu dire par là?
Il en est sans doute de la rhétorique comme de la médecine.
Comment?
Dans l'une et dans l'autre, il faut analyser la nature. Dans l'une, la nature des corps, dans l'autre, celle de l'âme. Si, au lieu de se contenter de la routine et de l'expérience, on veut recourir à l'art pour procurer au corps, par les remèdes et la nourriture, la santé et la force, il faut faire naître dans l'âme, par des discours et un enchantement vers la justice, la conviction qu'on veut y produire la vertu.
Ce que tu dis, Socrate, est vraisemblable.
Mais crois-tu qu'on puisse connaître suffisamment la nature de l'âme sans connaître la nature universelle?
S'il faut en croire Hippocrate, descendant d'Asclépios, on ne peut pas même connaître la nature du corps sans ce moyen.
Hippocrate a raison, mon camarade. Mais outre Hippocrate, il faut encore consulter la raison et voir si elle est d'accord avec lui.
Mais j'en conviens.
Examine donc ce que disent sur la nature Hippocrate et la droite raison. Pour étudier la nature d'une chose, quelle qu'elle soit, ne faut-il pas s'y prendre de cette manière, c'est-à-dire se demander d'abord si la chose qu'on veut connaître méthodiquement et qu'on veut être capable d'enseigner aux autres est simple ou multiple, puis, si elle est simple, examiner ses propriétés, comment et sur quoi elle agit, comment et par quoi elle est affectée, si au contraire elle comporte plusieurs espèces, les dénombrer et faire sur chacune le travail qu'on a fait sur la chose simple, voir en quoi et comment elle agit, en quoi et par quoi elle est affectée.
Apparemment, Socrate.
En tout cas, procéder autrement, c'est marcher à l'aveugle. Mais ce n'est pas le fait d'un aveugle, ni d'un sourd, que de traiter avec art une chose quelconque. Il est, au contraire, évident que si l'on enseigne à discourir avec art, on fera exactement ce qu'est la nature de l'objet auquel le disciple doit rapporter ses discours, et cet objet, c'est l'âme.
Sans nul doute.
N'est-ce pas vers cet objet que tend tout effort? Il s'agit en effet d'y porter la persuasion, n'est-ce pas?
Oui.
Il est donc évident que Thrasymaque ou tout autre qui veut enseigner sérieusement l'art oratoire devra d'abord décrire l'âme avec toute l'exactitude possible et montrer si, de sa nature, elle est une et identique ou multiple comme le corps. Car c'est cela que nous appelons montrer la nature des choses.
Parfaitement.
En second lieu, il décrira comment et sur quoi elle agit, comment et par quoi elle est affectée.
Sans doute.
En troisième lieu, ayant classé les espèces de discours et d'âme et les affections de l'âme, il en passera en revue les causes. Il appropriera chaque chose à celle qui lui correspond et enseignera quels discours et quelles causes produiront nécessairement la persuasion dans telle âme et resteront sans effet sur telle autre.
On ne saurait mieux s'y prendre, à mon avis.
Toute autre méthode d'explication ou d'exposition, soit orale, soit écrite, ne sera jamais la méthode de l'art, ni dans la matière qui nous occupe, ni dans aucune autre. Mais ceux qui ont de notre temps écrit des traités de rhétorique et que tu as entendu parler sont des fourbes qui dissimulent leur parfaite connaissance de l'âme. Ainsi,
tant qu'ils ne parleront pas et n'écriront pas de la manière que j'entends, gardons-nous de croire qu'ils écrivent avec art.
Quelle manière entends-tu ?
En parler dans les termes propres n'est pas chose facile. Cependant, je veux bien te montrer, dans la mesure où je suis capable, comment il faut écrire pour écrire avec art.
Parle donc.
Puisque le propre du discours est de conduire les âmes, pour être un habile orateur, il faut savoir combien il y a d'espèces d'âmes. Or, il y en a un certain nombre, avec telle et telle qualité. Il y a par suite aussi tel et tel homme. À ces distinctions correspondent respectivement autant d'espèces de discours. Et c'est ainsi qu'il est facile de persuader tel homme de telle chose par tel discours et par telle cause, tandis que tel autre résiste aux mêmes moyens de persuasion. Quand on s'est bien mis dans la tête ces distinctions, il faut en observer les effets dans la vie pratique et pouvoir les suivre vivement par la pensée. Autrement, on n'est pas plus avancé que lorsque l'on était encore à l'école de ses maîtres. Mais lorsqu'on est à même de juger par quel discours tel homme peut être persuadé et qu'on peut, à la vue d'un individu, le pénétrer et se dire « Voilà l'homme, voilà le caractère dont on m'a fait leçon jadis. Il est là devant moi. Il faut lui appliquer des discours de telle sorte pour lui persuader telle chose. » Quand on est maître de tous ces moyens, quand on sait en outre discerner les occasions de parler ou de se taire, d'être concis, émouvant, véhément, et s'il est à propos ou mal à propos de recourir à telle espèce de discours appris à l'école, alors on aura atteint la pleine perfection de l'art. Auparavant, non pas. Mais si, soit en parlant, soit en enseignant, soit en écrivant, l'on manque à remplir quelqu'une de ces conditions, on aura beau prétendre parler avec art, on ne sera pas cru, et ce sera justice.
Mais quoi ?
Dira peut-être notre auteur, pensez-vous, toi, Phèdre, et toi, Socrate, qu'il faille donner son suffrage à cette façon d'enseigner l'art oratoire ou le réserver à quelque autre ?
Il est impossible, Socrate, d'en adopter une autre, bien que ce soit, semble-t-il, une rude tâche.
C'est vrai. Aussi faut-il mettre sans dessus dessous tous les traités pour voir si nous ne découvrons pas une route plus facile et plus courte qui nous mène à l'art. Ce serait sottise de nous engager dans les détours d'une route longue et âpre quand nous pouvons en prendre une courte et unie. Mais si tu peux trouver de quoi nous aider dans les leçons que tu as entendues faire à Lysias ou à quelque autre, essaie de t'en souvenir et de me les rapporter.
Essayez, je le puis, mais y réussir instantanément, c'est autre chose.
Veux-tu que je te rapporte, moi, certains discours que j'ai entendu tenir à des gens versés dans ces matières ?
Certainement.
On dit, Phèdre, qu'il est juste de plaider même la cause du loup.
Eh bien, fais-le, toi aussi.
Ils disent donc qu'il ne faut pas attacher tant d'importance à notre méthode ni remonter si haut par tant de détours. Car il est bien certain, comme nous l'avons dit au début de cet entretien, qu'il n'est pas nécessaire pour être un bon orateur de connaître la vérité sur la justice et la bonté des choses et des hommes et de savoir si ces qualités sont naturelles ou acquises. Dans les tribunaux, en effet, on ne s'inquiète pas le moins du monde de dire la vérité, mais de persuader. Et la persuasion relève de la vraisemblance.
C'est à la vraisemblance qu'on doit l'appliquer si l'on veut parler avec art. Il y a même des cas où il faut se garder d'exposer les faits comme ils se sont passés.
C'est quand ils sont contraires à la vraisemblance. Il faut alors les réduire au vraisemblable, aussi bien dans la défense que dans l'attaque. Enfin, en général, l'orateur doit s'attacher au vraisemblable et envoyer promener le vrai. La vraisemblance soutenue d'un bout à l'autre du discours, voilà ce qui constitue tout l'art oratoire.
C'est bien cela, Socrate. Tu as rapporté exactement ce que disent ceux qui se donnent pour les maîtres de l'art oratoire. Je me rappelle en effet que nous avons brièvement touché ce point et qu'il est de première importance pour ceux qui s'occupent de ces matières.
Mais à coup sûr, tu as pratiqué Tisias lui-même avec une attention minutieuse. Que Tisias nous dise donc, encore, si par le vraisemblable il entend autre chose que ce qui semble vrai à la multitude.
Pourrait-il entendre autre chose ?
Ayant découvert, semble-t-il, cette ingénieuse règle de l'art, il a écrit que,
Si un homme faible et courageux est traduit en justice pour avoir battu un homme fort et lâche, et lui avoir enlevé son manteau ou quelque autre objet, ni l'un ni l'autre ne doit dire la vérité. Mais que le lâche doit affirmer que le brave n'était pas seul à le battre, et le brave essayer de prouver qu'ils étaient tous deux seuls et recourir à un argument comme celui-ci. « Comment, moi, si faible, aurais-je attaqué un homme si fort ?» De son côté, l'autre, loin d'avouer sa lâcheté, essaiera quelque autre mensonge qui peut-être fournira à son adversaire l'occasion de le confondre. Tout le reste est du même acabit, et voilà ce qu'ils appellent parler avec art. N'est-ce pas, Phèdre ?
Si.
Ah, c'est, paraît-il, un art merveilleusement caché qu'a découvert Tisias, ou un autre, quel qu'il puisse être, et quel que soit le nom qu'il se pique de porter. Mais, mon camarade, ne dirons-nous pas à cet homme quoi ? Ceci. Bien avant ton entrée en scène, Tisias, nous disions justement que cette vraisemblance s'impose à la foule précisément par sa ressemblance à la vérité. Et nous faisions voir tout à l'heure que c'est quand on possède la vérité qu'on sait le mieux découvrir ses vraisemblances en toutes circonstances. Si donc tu as quelque autre chose à dire sur l'art oratoire, nous t'écouterons volontiers, sinon nous nous en tiendrons au principe que nous avons posé, que si l'on n'a pas fait un dénombrement exact des caractères des auditeurs, si l'on n'a pas divisé les choses en espèces, et si l'on n'est pas capable de ramener chaque idée particulière à une idée générale, on n'atteindra jamais la perfection de l'art oratoire dans la mesure où elle est accessible à l'homme. Mais cette perfection, on ne saurait l'acquérir sans un immense labeur, et si le sage en assume la peine, ce ne sera pas pour parler aux hommes et traiter avec eux, mais pour se mettre en état, autant qu'il dépend de lui, de plaire aux dieux par ses paroles et de leur plaire en toute sa conduite. Car un homme de sens ne doit pas, Tisias, c'est l'opinion de gens plus sages que nous, s'étudier à plaire à ses compagnons d'esclavage, sinon en passant, mais à de bons et nobles maîtres. Aussi, tu ne dois pas t'étonner si le circuit est long, au rebours de ce que tu crois, c'est en vue d'un but sublime qu'il faut faire ses détours. D'ailleurs, comme notre discussion l'a fait voir, c'est de cette manière qu'on atteindra le mieux, si on le veut, le but que tu proposes.
C'est parfait, Socrate, à condition qu'on puisse atteindre ce but.
Quand on poursuit de belles choses, il est beau d'affronter toutes les souffrances possibles.
Certainement.
En voilà assez sur l'art et le défaut d'art des discours.
Soit.
Il nous reste à examiner la convenance ou l'inconvenance qu'il peut y avoir à écrire et la manière de le faire suivant ou contre la décence, n'est-ce pas ?
Oui.
Sais-tu, à propos des discours, quelle est la manière de faire ou de parler qui est la plus agréable aux dieux ?
Pas du tout. Et toi ?
Je puis te rapporter une tradition des anciens. Les anciens connaissent la vérité. Si nous pouvions la trouver par nous-mêmes, est-ce que nous nous préoccuperions encore des opinions des hommes ?
Plaisante question, mais rapporte ta tradition.
Vais donc ouï dire qu'il y avait près de Neucratis, en Égypte, un des anciens dieux de ce pays à qui les Égyptiens ont dédié l'oiseau qu'ils appellent Ibis. Ce démon porte le nom de Thoth. C'est lui qui inventa la numération et le calcul, la géométrie et l'astronomie, le trictrac et les dés, et enfin l'écriture. Thammuz régnait alors sur la contrée dans la grande vallée de la Haute Égypte que les Grecs nomment Thèbes l'Égyptienne, comme ils appellent Amon le dieu roi Thanous. Thoth vint trouver le roi. Il lui montra les arts qu'il avait inventés et lui dit qu'il fallait les répandre parmi les Égyptiens. Le roi demanda à quel usage chacun pouvait servir. Le dieu le lui expliqua et, selon qu'il lui paraissait avoir tort ou raison, le roi le blâmait ou le louait. On dit que Thammuz fit à Thoth beaucoup d'observations pour ou contre chaque art. Il serait trop long de les relever, mais quand on en vint à l'écriture.
L'enseignement de l'écriture, au roi, dit Thoth, accroîtra la science et la mémoire des Égyptiens, car j'ai trouvé là le remède de l'oubli et de l'ignorance.
Le roi répondit. Ingénieux Thoth, tel est capable de créer les arts, tel autre de juger dans quelle mesure ils porteront tort ou profit à ceux qui doivent les mettre en usage. C'est ainsi que toi, père de l'écriture,
tu lui attribues bénévolement une efficacité contraire à celle dont elle est capable, car elle produira l'oubli dans les âmes en les faisant négliger la mémoire. Confiant dans l'écriture, c'est du dehors, par des caractères étrangers et non plus du dedans, du fond d'eux-mêmes, qu'ils chercheront à susciter leurs souvenirs. Tu as trouvé le moyen non pas de retenir, mais de renouveler le souvenir. Et ce que tu vas procurer à tes disciples, c'est la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Car quand ils auront beaucoup lu sans apprendre, ils se croiront très savants, et ils ne seront le plus souvent que des ignorants de commerce incommode, parce qu'ils se croiront savants sans l'être.
Il t'en coûte peu, Socrate, à faire des discours égyptiens. Tu en ferais, si tu voulais, de n'importe quel pays du monde.
Mon ami, les prêtres du temple de Zeus à Dodone ont affirmé que c'est d'un chêne que sortent les premières divinations. Les gens de ce temps-là, qui n'étaient pas savants comme vous, jeunes gens, écoutaient fort bien dans leur simplicité un chêne ou une pierre, si le chêne ou la pierre disait la vérité. Mais toi, tu veux savoir sans doute le nom de l'orateur et son pays d'origine, et tu ne te contentes pas de savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux.
Tu as raison de me reprendre, et je me range sur l'écriture à l'avis du Thébain.
Ainsi donc, celui qui pense laisser après lui un art consigné dans un livre, comme celui qui le recueille dans la pensée qu'il sortira de cette écriture un enseignement clair et durable, fait preuve d'une grande simplicité, et il ignore à coup sûr l'oracle d'Amon s'il pense que des discours écrits sont en quelque chose de plus qu'un memento qui rappelle à celui qui les connaît déjà les choses traitées dans le livre.
C'est très juste.
C'est que l'écriture, Phèdre, a un grand inconvénient, tout comme la peinture. Les produits de la peinture sont comme s'ils étaient vivants, mais pose-leur une question. Ils gardent gravement le silence. Il en est de même des discours écrits. On pourrait croire qu'ils parlent en personnes intelligentes, mais demande-leur de t'expliquer ce qu'ils disent, ils ne répondront qu'une chose, toujours la même. Une fois écrit, le discours roule partout et passe indifféremment dans les mains des connaisseurs et dans celles des profanes, et il ne sait pas distinguer à qui il faut, à qui il ne faut pas parler. S'il se voit méprisé ou injurié injustement, il a toujours besoin du secours de son père, car il n'est pas capable de repousser une attaque et de se défendre lui-même.
C'est également très juste.
Mais si nous considérons un autre genre de discours, frère germain de l'autre, et si nous examinions comment il naît et comment il est meilleur et plus efficace que lui.
Quel discours? Et comment naît-il?
Celui qui s'écrit avec la science dans l'âme de celui qui étudie et qui est capable de se défendre lui-même, qui sait parler et se taire suivant les personnes.
Tu veux parler du discours de celui qui sait, du discours vivant et animé dont le discours écrit n'est à proprement parler que l'image.
C'est cela même. Mais dis-moi, si un laboureur sensé avait des graines auxquelles il tint et dont il voulut avoir des fruits, irait-il sérieusement les semer en été dans les jardins d'Adonis pour avoir le plaisir de les voir fleurir en 8 jours et, s'il le faisait, ne serait-ce pas en matière d'amusement et à l'occasion d'une fête? Mais pour celles auxquelles il s'intéresserait sérieusement, ne suivrait-il pas la règle de l'agriculture, semant en terrain convenable, et se contentant de voir ses plantes arriver à maturité 8 mois après?
C'est bien ce qu'il ferait, Socrate, soit pour des semailles sérieuses, soit pour des semailles d'agrément, comme tu disais.
Et l'homme qui a la science du juste, du beau et du bien, sera-t-il, selon nous, moins sensé que le laboureur dans l'emploi de ses grains?
Non, certes.
N'ira-t-il donc pas sérieusement écrire ce qu'il sait dans l'eau? Il ne le sèmera pas avec l'encre et la plume en ses discours incapables de parler pour se défendre eux-mêmes, incapables même d'enseigner suffisamment la vérité?
Ce n'est pas probable.
Assurément, non. Mais ce sera sans doute pour son amusement qu'il sèmera dans les jardins de l'écriture et qu'il écrira, si jamais il écrit, amassant ainsi un trésor de souvenirs pour lui-même, quand la vieillesse oublieuse sera venue, et pour tous ceux qui marcheront sur ses traces. Il prendra plaisir à voir pousser les plantes délicates de ses jardins
et tandis que les autres rechercheront d'autres divertissements et s'adonneront à des banquets et autres passe-temps du même genre, lui, répudiant ses plaisirs, passera sans doute sa vie dans l'amusement dont je viens de parler.
C'est un bien beau passe-temps, Socrate, à côté des mesquines distractions des autres, que celui de l'homme capable de se jouer en des discours et de composer des allégories sur la justice et autres belles choses dont tu as parlé.
C'est bien vrai, mon cher Phèdre, mais il est, à mon avis, une manière bien plus belle encore de s'occuper de ces choses. C'est, quand on a trouvé une âme qui s'y prête, d'y planter, d'y semer avec la science, selon les règles de la dialectique, des discours capables de se défendre eux-mêmes, et aussi celui qui les a semés, et qui, au lieu de rester stérile, porte une semence qui donnera naissance en d'autres âmes à d'autres discours, lesquels assureront à la semence toujours renouvelée l'immortalité et rendront ses dépositaires aussi heureux qu'on peut l'être sur terre.
Oui, cette matière est en effet beaucoup plus belle.
Ces principes admis, nous pouvons à présent, Phèdre, nous prononcer sur la question.
Laquelle ?
Celle que nous voulions approfondir et qui nous a conduits au point où nous sommes. Nous voulions examiner si Lysias méritait des reproches pour avoir écrit des discours et quels sont en général les discours qui relèvent ou ne relèvent pas de l'art. Il me semble que nous avons suffisamment expliqué ce qui est conforme à l'art et ce qui ne l'est pas.
C'est ce qu'il m'a semblé aussi, mais rafraîchis un peu mes souvenirs.
Tant qu'on ne connaît pas la vérité sur chacune des choses dont on parle ou écrit, qu'on ne sera pas capable de définir chaque chose en elle-même, qu'on ne saura pas, après l'avoir définie, la diviser en espèces jusqu'à ce qu'on arrive à l'indivisible, tant qu'on n'aura pas de même pénétré la nature de l'âme, reconnu l'espèce de discours qui convient à chaque nature, et déposé et ordonné son discours en conséquence, offrant à une âme complexe des discours complexes, ajustés de tout point à ses exigences, et à une âme simple des discours simples, jamais on ne sera capable de manier l'art oratoire aussi parfaitement que le comporte la nature du discours, ni pour enseigner, ni pour persuader, comme nous l'avons fait voir dans tout ce qui précède.
C'est absolument ce qui nous a paru.
Et maintenant, quant à savoir s'il est beau ou honteux de prononcer et d'écrire des discours, et dans quel cas l'on a tort ou raison d'en faire un greffe à l'auteur, ce que nous avons dit tout à l'heure ne suffit-il pas à montrer
quoi ?
Que si Lysias, ou tout autre, a jamais écrit ou vient à écrire sur une question d'intérêt privé ou public, en faisant des lois et en composant à cette occasion un écrit politique, et s'il pense y avoir mis une grande solidité et une grande clarté, ses écrits ne rapporteront à leur auteur que la honte, qu'on en convienne ou non, car son ignorance absolue du juste et de l'injuste, du mal et du bien, est une véritable honte à laquelle il ne saurait échapper, fût-il couvert des applaudissements universels de la multitude.
Il ne le saurait, en effet.
Mais celui qui pense qu'un discours écrit, quel qu'en soit le sujet, est nécessairement, à beaucoup d'égards, un badinage, et que jamais discours en vers ou en prose écrit ou prononcé ne mérite qu'on fasse grand cas non plus que ces discours que les rhapsodes récitent pour captiver les auditeurs, sans les admettre à discuter ni les instruire, et qu'en réalité les meilleurs discours ne sont que des mementos pour ceux qui savent, qu'au contraire les discours faits pour être étudiés, prononcés pour l'instruction des auditeurs et véritablement écrits dans leur âme, avec le juste, le beau et le bien pour sujet, sont les seuls qui soient clairs, solides et dignes de considération. Qu'il faut regarder de tels discours comme les fils légitimes de leur auteur, d'abord ceux qui vivent en lui et sont le produit de leur esprit, puis ceux qui, fils ou frères de ceux-là, sont nés les uns dans telles âmes, les autres dans telles autres, sans démériter cet homme-là, s'il n'a cure des autres sortes de discours, pourrait bien être celui que toi et moi nous souhaiterions d'être.
Pour ma part, je le souhaite de tout mon cœur, et je le demande au Dieu.
Finissons. C'est assez nous jouer sur l'art de la parole. Et toi, va retrouver Lysias, et dis-lui qu'étant descendus tous deux au ruisseau et à la retraite des nymphes, nous avons entendu des discours où l'on faisait savoir à Lysias et à tous ceux qui composent des discours, à Homère et à tous ceux qui ont composé des poèmes chantés ou non chantés, et enfin à Solon et à tous les orateurs politiques qui, sous le nom de loi, ont rédigé des écrits que si, en composant ces ouvrages, ils ont connu la vérité, s'ils peuvent en venir à la discussion et défendre ce qu'ils ont écrit, et si l'orateur en eux est capable de faire pâlir l'auteur, ce n'est point leur activité d'écrivain, mais le souci de la vérité qui leur vaudra leur nom.
Et quels sont les noms que tu leur donnes ?
Le nom de sage, Phèdre, me semble bien sublime et ne convient qu'à Dieu. Celui d'ami de la sagesse ou tel autre semblable leur conviendrait mieux et s'accorderait mieux à leur faiblesse.
C'est très juste.
En revanche, celui qui n'a rien en lui de plus précieux que ce qu'il a composé ou écrit à force de temps, en mettant son esprit à la torture, en ajoutant et retranchant pièce à pièce, tu l'appelleras, comme il le mérite, poète, faiseur de discours, rédacteur de lois.
Oui.
Va donc redire cela à ton ami.
Mais toi, que vas-tu faire? Car ton ami non plus ne doit pas être oublié.
Quel ami?
Le bel Isocrate. Que lui diras-tu, Socrate? Et quel nom lui donnerons-nous?
Isocrate est encore jeune, Phèdre. Cependant, je veux te dire ce que j'augure pour lui.
Voyons.
Il me semble qu'il est trop bien doué par la nature pour que l'on compare son éloquence à celle de Lysias, et qu'il est aussi fait d'une étoffe plus noble. Aussi, je ne m'étonnerais pas si, avec l'âge, dans le genre de discours qu'il cultive à présent, il prenait tous ceux qui ont jamais mis la main à un discours plus d'avantage qu'un homme fait n'en a sur un enfant, et si cet art ne lui suffisait plus, qu'un instinct divin ne le poussa à des œuvres plus hautes. Car il a dans l'esprit l'amour de la sagesse. Voilà ce que je rapporterai de la part des déités de ce lieu à mon bien-aimé Isocrate. De ton côté, répète à ton cher Lysias ce que nous avons dit.
Je le ferai. Mais partons puisque la chaleur s'est adoucie.
Il serait bien de faire une prière avant de partir.
C'est vrai.
Cher Pan, et vous, divinité de ces lieux, donnez-moi la beauté intérieure, et que l'extérieur soit en harmonie avec l'intérieur. Que le sage me paraisse toujours riche, que j'aie juste autant d'or que le sage seul peut en emporter avec lui. Avons-nous quelque autre chose à demander, Phèdre?
Pour moi, je n'ai rien à ajouter à ma prière.
Fais les mêmes vœux pour moi, car tout est commun entre amis.
Allons-nous-en.